On va retrouver Maurice Rachfus qui est avec nous aujourd'hui dans le studio. Et la venue de Maurice a concordé avec la publication du rapport annuel du CNDS. Alors c'est le Comité national contre...
Je vais t'aider, c'est la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
Voilà. Et ben, puisque tu as la parole, tu peux continuer, essayer de nous présenter un petit peu ce qu'on trouve dans ce merveilleux rapport de cette officine.
Donc, ces rapports, on les trouve facilement sur le net. Et là, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, puisqu'on a, on a eu affaire au dernier rapport, au rapport 2004, qui fait 97 affaires de non-respect du droit des victimes par des forces de l'ordre. Alors le CNDS, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, en gros, c'est un comité qui existe depuis 2000, qui est composé d'afro-gauchistes, donc un président nommé par le président de la République, des sénateurs, des députés, des conseillers d'État, des membres de la Cour de cassation et des experts nommés par ces personnes. Donc globalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un rapport annuel qui reprend l'ensemble des bavures qui leur parviennent. Et le problème ou la difficulté de cette commission, c'est que les bavures ne leur parviennent qu'au travers des députés et des parlementaires. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait l'objet d'une bavure ou avoir vu une bavure. On saisit un député ou un parlementaire qui fait état de cette bavure auprès de la commission. Évidemment, le filtre ne permet pas de saisir l'ensemble des bavures sur le territoire. Donc on s'est beaucoup alarmé dans la presse ces derniers jours en disant que le nombre d'affaires augmentait. On est passé de 40 affaires en 2002 à 97 affaires aujourd'hui. Mais on voit bien que l'ensemble du processus n'est pas du tout couvert. Par exemple, il n'y a aucun cas qui relève des affaires de sociétés privées, alors qu'on a un état de difficulté dans ce domaine-là. Il y a également peu d'affaires qui ressortent de la gendarmerie nationale ou encore de l'administration pénitentiaire. Mais globalement, quel est le travail effectué par ce groupe? Donc, il reprend l'ensemble de ces affaires. Il ne juge que lorsque pratiquement les membres des forces de l'ordre reconnaissent de fait leur participation à ce genre d'agissement. Et puis, ils font état de ces bavures et proposent quelques solutions, notamment au ministère de l'Intérieur. Alors, les solutions.
Il ne juge pas, il donne un avis.
Oui, tout à fait. Il donne un avis. Et d'ailleurs, on peut dire que les avis. Donc, on a les réponses du ministère, notamment de l'intérieur, qu'on voit qu'on peut voir en gros que les avis s'assoient dessus en disant qu'ils avaient déjà pris toutes les mesures auparavant et que, bon, en gros, les formulations qui émanent de la commission ne sont pas respectées. Alors, en gros, leur conseil, c'est en gros de dire il faudrait plus de gradés dans la police pour surveiller les jeunes non formés. Il faudrait augmenter le nombre de formations, augmenter le nombre de restitutions de manœuvres sur le terrain auprès des chefs, etc., etc. Bon, il relève également que la grande partie des bavures relève souvent de jeunes policiers non formés envoyés dans les quartiers dits difficiles. Enfin, le rapport de cette année offre un nouvel intérêt puisqu'il est complété d'un rapport sur les discriminations, en particulier les discriminations ethniques, qui montre également que les discriminations concernent essentiellement les jeunes policiers d'un côté et les jeunes immigrés ou, disons, les jeunes également français, mais qui ont une tête d'immigré, en particulier une tête de maghrébin ou de noir. On peut également dire qu'en gros la grande majorité des plaintes émanent des PS et PC, beaucoup moins de plaintes qui émanent de l'UMP et de l'UDF, on aurait à peu près deviné. On pourra espérer également que ces plaintes continueront à arriver lorsque le PS retrouvera le pouvoir, s'il le retrouve un jour. Voilà. Enfin, on peut également dire que la dotation financière qui devait arriver à cette commission a été réduite cette année par l'UMP.
Alors Maurice, quand on t'a dit qu'on avait parlé du rapport du CNDS, tu nous as dit de toute façon c'est le même que l'année dernière. Comment vois-tu ce type de commission?
Je dis que chaque année, il est un peu plus épais ce bouquin. Hein. Quoi qu'on pense du CNDS, à mon sens, il a le mérite d'exister, même si c'est un cache-sexe du pouvoir. Hein. Parce que à partir de l'existence de documents, qui est un gros truc de plusieurs centaines de pages, il est possible de dire que c'est là la vision minorée des dérives policières. Et dans ce sens, c'est important pour dire que on filtre et on voit peut-être 10% ou même pas de ce qui peut se passer en matière de brutalité policière. Et l'argument des jeunes policiers mal encadrés ne vaut rien. dans la mesure où ces policiers, même jeunes, ils sortent dans la rue, si on veut, après un an d'école de police, où ils ont normalement intégré des notions de droit, des notions de civilité, etc. Et puis, ne pas oublier qu'ils ont tous dans leur poche le code de déontologie de la police, où il est dit à l'article 10, je me répète, je le dis souvent, toute personne interpellée est placée sous la protection de la police, etc.
Alors, tu disais aussi que toi, tu as été témoigné devant, tu as été amené à rencontrer ces...
Oui, il y a 2 ans, j'ai été contacté par un Africain qui avait été lourdement bousculé par des policiers de la SUG, c'est la police des chemins de fer. Et il l'avait cogné, après ils l'ont poursuivi pour outrage, rébellion, etc. Donc il a fait appel à 2 parlementaires et on lui a suggéré de faire appel à moi pour venir le soutenir quand il fait des positions. Il a été entendu très 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 correctement par 3 membres du CNDS, mais à la fin j'ai juste levé le doigt pour poser la question importante. J'ai dit, il serait bon quand même que vous mettiez dans votre rapport que si ce garçon a eu des problèmes, c'est peut-être parce qu'il est de couleur noire. Et le président de la commission m'a dit, ah bah oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé.
Alors, je ne sais pas si pour ceux qui se sont penchés un petit peu sur le rapport du CNDS, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter ? Non, parce qu'on va revenir. On va revenir en 1993, puisqu'en mars 93, Charles Pasqua redevient ministre de l'Intérieur, et son arrivée place Beauvau va s'accompagner d'une série de bavures policières. En 15 jours, la police fait 7 morts. C'est une sorte de grande fête dans les commissariats pour fêter le retour du ministre aimé.
Charlie est de retour, oui.
Charlie. Et on se souvient du cas de Macomé Mbowele, qui a été tué dans le commissariat des grandes carrières dans le 18e arrondissement, d'une balle dans la tête tirée à bout touchant. Et alors, une autre de ces 7 victimes de la période du retour de Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur, c'est Pascal Thaïs, qui a été interpellé, qu'on retrouve le lendemain matin, le 7 avril, dans une cellule mort, dans une cellule du commissariat d'Arcachon. Alors cette histoire qui avait été oubliée, tu es retourné plusieurs années après refaire l'enquête à côté de la famille, avec la famille, et donc ça donne
ça a été oublié par tout le monde, sauf par la famille, qui a à 2 reprises porté plainte contre la police. Et à chaque fois, en 96 et en 2000, il y a eu non-lieu, affaire classée sans suite. Pour l'instant, ils sont devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qui est important dans cette affaire Pascal Thaïs, c'est qu'on le retrouve quasiment massacré au matin du 7 avril 93 dans sa cellule. Il n'y a pas 1 cm² de peau qui soit intact. Et les policiers disent, nous, on n'était pas là. S'il s'est fait mal, c'est qu'il a heurté l'angle vif de sa banquette de ciment en tombant. L'ennui, c'est que la banquette, elle est basse, qu'il n'y a pas d'angle vif, c'est rond. Et que le garçon, après l'interpellation, il est passé devant un médecin, comme il est de règle, qui n'a trouvé aucune trace de ce qu'on découvrira plus tard le lendemain dans son, comment dire, dans les rapports d'autopsie qui sont terribles. Et puis, c'est un gars qui a toutes les chances avec lui. Quelques années auparavant, il a eu une blessure au genou. On l'a opéré, transfusé, on lui a filé le sida, en transfusion. Donc, on laisse courir le bruit après, comme son père est marocain, que c'est un marocain qui est venu foutre le sida en France. Il y a des témoins, il y a des faux témoins. Par exemple, on fait dire à des femmes de ménage qui sont venues dans la prison qu'elles ont vu le garçon en bon état à 7 heures, alors que semble-t-il était déjà mort à 6h30. Il y a un policier qui, sous couvert de l'anonymat, écrit pour dénoncer un de ses collègues, et on ne tient pas compte dans l'instruction, les 2 instructions de ce courrier-là. Et la perle, la cerise sur le gâteau, c'est que le père de Pascal Thaïs, Mohamed Saïs, il est traducteur-interprète au tribunal de Pau, et comme il porte plainte contre Pasqua, en 1993 au Algérie de son boulot. D'une manière extrêmement simple, comme ce sont des postes de vacataires qui se renouvellent tous les ans, on ne renouvellera pas son travail. Donc ça, c'est une petite vengeance de la justice, ça ajoute au dossier, quoi.
Alors, il y a dans ce petit livre, il y a la reproduction du rapport d'autopsie qui est absolument terrifiante, quoi. C'est à lire.
Et je l'ai résumé, hein. C'est épouvantable. Il y a des abrasions sur tout le corps, le nez cassé, l'arête éclatée. J'épargne les détails.
Alors, juste peut-être pour revenir sur le projet de ce livre, tu as été contacté par la famille, c'est toi qui as repris contact avec eux?
Non, je me suis trouvé il y a un peu plus d'un an un débat sur la police à Bègles, où malheureusement ma mère n'était pas venue, ça, c'est dommage. Et j'ai rencontré le père de Pascal Thaïs à ce moment-là, c'était tout juste un... Et on a évoqué la possibilité de faire ce bouquin, je lui ai demandé de me procurer des documents, je l'ai revu au mois de juillet. Et puis, j'ai remis ma copie au mois de septembre et le bouquin est sorti en décembre.
Parce que pour la famille, ce que tu expliques dans le livre, c'est que malgré un certain nombre d'évidences du fait qu'il y a eu une bavure, ils se heurtent depuis le départ en permanence à un mur.
Oui, il y a deux refus à la suite de plainte. Ça a été rejugé deux fois. Et à chaque fois, les juges ne veulent pas prendre les éléments essentiels aussi en considération. Et là, on sent vraiment que la justice est au service de la police. C'est tout à fait clair. Et d'autres cas du même genre, hein, on pourrait les énumérer, les ajouter, ça ferait quelques volumes de plus pour les rapports du CNDS.
C'est quoi le fond de l'affaire, en fait?
Le fond de l'affaire, ce garçon, il est le soir en guette avec sa petite copine à Arcachon, et puis il se trouve face à des policiers devant le casino qui font un contrôle d'identité assez sévère. Finalement, ça se termine comme souvent quand le ton monte, direction le commissariat. Ils vont même l'inonder d'alcool pour faire croire qu'il avait bu, alors que c'est un garçon qui buvait pas. On lui donne pas ses médicaments alors qu'il en a besoin. Enfin, c'est le scénario classique. C'est au départ, ce qui pourrait être qu'un incident qui se termine par quelques coups, se termine par la mort d'un garçon qui est affaibli par la maladie déjà.
D'accord. Mais le rapport d'autopsie qui semble assez accablant...
C'est le médecin légiste.
D'accord. Mais ça signifierait que des policiers se sont acharnés, mais à un point...
Tout à fait évident, oui. Ouais. Il s'est fait cogner. Sans doute que depuis sa cellule, dans sa cellule, ils ont été le narguer, l'engueuler. Il a dû répondre. Uh-huh. Ils se sont acharnés sur lui. Peut-être qu'ils avaient bu. D'accord. C'est quelque chose de très classique, hein. Sauf que
là, enfin, apparemment, ça prend des proportions
terribles, mais ça prend souvent des proportions terribles. Ouais. Parce que quand on voit, il y a 10 jours, 15 jours, devant les lycées, 5 ou 6 policiers matraquer un garçon de 16 ou 17 ans à terre, ils peuvent le tuer. C'est du quotidien. La grande chance, entre guillemets, si on peut dire, des policiers, c'est qu'il n'y ait pas plus de morts que ça. Parce que quand l'étudiant marocain s'est fait tuer en décembre 1986...
Malik Oussekine,
rue Monsieur le Prince, c'est pareil. Hein, c'est un policier qui s'acharne un coup de matraque sur un garçon qui n'était pas là au bon moment. Et des séances de matraquage comme ça, il y en a tout le temps. Il y en a qui ont la tête moins dure que d'autres.
Et juste sur ces bavures là, sur ce qui se passe en 93, dans l'ensemble, tout va se passer comme pour Thaïs, c'est-à-dire il va y avoir une espèce sorte de non-lieu ou des peines très minimes pour les policiers.
Il y en a un seul qui va trinquer, c'est celui qui a tué Macomé, parce que c'est quand même très visible, ça se passe dans un commissariat. Le garçon la veille. Il a chouré quelques paquets de cigarettes dans un bureau de tabac, c'est pas bien. Donc il est interpellé, mis en garde à vue, et comme il est mineur, le père doit venir le chercher le lendemain matin. Et comme le père est un homme de rien, sans des aérois, il vient percher pour lui apprendre à vivre. Alors, comme il est au commissariat, en attendant que son père vienne le chercher, il y a un policier, dont je tairai le nom par charité non chrétienne, qui fait un interrogatoire illégal, parce qu'on n'interroge pas quelqu'un, un mineur, que le père doit venir chercher. Et pour faire peur au gamin, il ouvre le tiroir et il sort un flingue. On ne fait pas d'interrogatoire avec le flingue à la main. Et un peu sur le thème, tu vas voir qui est le plus fort ici. Et puis le coup part tout seul, comme d'habitude. Et le collègue qui est dans le bureau, il regarde d'ailleurs à ce moment-là, forcément. Mais enfin, ce policier-là, il a quand même pris... Et il a fait ses 7 ans. C'est un cas rarissime.
Mais parce que... Sur ces questions des bavures policières, tu publies chaque mois Que fait la police, qui est le bulletin d'information, qui est publié par l'Observatoire des libertés publiques, et tu reviens régulièrement justement sur les exactions policières, une sorte de CNDS à toi tout seul. C'est une sorte de règle commune qui est pas de poursuite, quoi.
Oui, moi, c'est pas un CNDS, hein, c'est une revue de presse, hein, c'est très modeste. Je voudrais revenir sur la bavure de ce matin, parce que ce matin à Bordeaux. Il y a un policier qui manipulait les nouvelles armes dont les policiers sont dotés. Le coup est parti tout seul. Et il y a un adjoint de sécurité, c'est le fameux emploi jeune créé par Chevènement, qui était derrière une cloison, il s'est pris une balle dans la poitrine et il est mort tout de suite. Et il se trouve que dans le numéro d'avril de Que fait la police, donc rédigé au mois de mars, j'avais une petite note sur le nouveau pistolet dont vont être dotés les policiers. C'est une commande passée par Chevènement. Je crois qu'il y en aura 250 000. Ça coûte cher. Hein. Les policiers n'auront plus leur Manurin parce que le Manurin, le 357 Magnum, il n'avait pas de cran d'arrêt, donc très dangereux. Et il n'avait que 6 coups. Alors, les policiers sont dotés peu à peu d'un pistolet allemand qui s'appelle Sigsauer. Sauer, c'est drôle, ça veut dire aigre en allemand, qui tire 15 coups. Et qui, en principe, a un cran d'arrêt, donc les coups partent pas tout seuls. Et le policier qui a tué ce matin un agent de sécurité manipulait ce pistolet dans son commissariat. C'est pas la première fois. Il y a des policiers de Bordeaux, il y a 2 ou 3 mois, qui, après boire, se sont flingués gentiment entre eux aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle vraiment des bavures, là. Parce que la bavure, c'est quand un policier en tue un autre. Dans d'autres cas, c'est plutôt un assassinat.
Voilà, bah écoute, on rappelle donc la publication L'affaire Pascal Thaïs, autopsie d'une bavure, Arcachon, 7 avril 1993, c'est publié chez L'Esprit Frappeur et ça coûte 4 euros.
Demain sera un autre jour. La chance tournera.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, la vie vous sourira.
Demain, demain, toujours demain.
Demain, on nous dira demain.
Quand c'est qu'arrivera demain.
Demain sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demain.
Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise.
Demain, demain, j'entends que ça.
Demain, demain, toujours demain.
demain, nous disons tous demain.
Quand c'est qu'arrivera demain?
Demain sera toujours demain.
Oh, qu'ils sont nombreux les demain.
Demain c'est là des reprises. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui.
C'était fondu assez vite, oui.
Donc maintenant, on va enchaîner sur un fameux rapport, le rapport de Jacques-Alain Benisti, dont Pierre et Alexandrine vont nous parler. Alors, c'est un joli morceau de grande étude sur la délinquance, réalisé à l'Assemblée nationale. C'est un rapport préliminaire de la commission prévention du groupe d'études parlementaires sur la sécurité intérieure, et ça vaut son pesant de cacahuètes.
Eh ben, d'abord, ce pré-rapport, parce que je crois que c'est pas encore un rapport, c'est pas du tout un rapport définitif, un truc court parsemé de fautes d'orthographe, c'est pour vous dire qu'il y en a, parce que même moi je les ai vus. Au début, on pourrait croire facilement un gag, c'est tellement l'archétype de ce qu'on peut attendre d'un rapport fait par un parlementaire de droite, que ça ressemble à un faux, ça ressemble à des gauchistes qui se sont amusés à faire un faux document de droite pour dénoncer les dérives sécuritaires et le manque de compréhension des phénomènes sociaux. Voilà.
Et à moins que ça soit la femme de Tibéri qui est rédigé.
On se demande, oui, des fois.
Alors, il y a des socialistes dans la commission parlementaire. Alex, t'avais repéré ça, c'est que les gens qui ont fait ce rapport ont auditionné quand même le gratin de ce qu'il pouvait y avoir.
Ah non, ça c'est pas les auditionnés, c'est ceux qui font partie de la commission, ouais. C'est déjà pas.
Il y a un socialiste dedans.
Il y en a deux.
C'est pas Christophe Caresch.
Je vais te dire ça tout de suite. Je vois pas Caresch, non, il y a pas de Christophe Caresch. Par contre, il y a Christine Boutin. Qui est tout à fait, non mais je vais citer quand même les plus connus et les moins comment dire progressistes, on va dire. C'est, nous avons donc Christine Boutin, on a Jean-Michel Bertrand qui est le député de l'Ain et maire de Bourg-en-Bresse, qui a récemment fait un peu parler de lui en virant les punks à chiens dans Bourg-en-Bresse, je connais un peu donc Et puis on a Éric Raoult, on a Christian Estrosi, enfin que des gens bien de droite, effectivement, et ça se sent.
Et qui est le socialiste?
Alors il y a deux socialistes, il y en a un qui s'appelle Blasi.
Jean-Pierre Blasi.
Ah oui.
Et l'autre
c'est Christophe Masse.
Voilà. Et donc, alors c'est dans l'ensemble hein, sur ce rapport qui a fait quand même beaucoup de bruit. On verra à la fin quel statut et qu'est-ce qu'on peut attribuer à ce rapport comme volonté et comme impact. C'est grosso modo une vision très mécanique de la délinquance. Hein. Tu voles un carambar à 4 ans, tu rentres dans le grand banditisme à 18 ans. Il y a même un graphique. Tu vois, ça a été il y a un schéma, il y a quasiment un modèle mathématique qui est proposé de progression de la délinquance, quelque chose de mécanique.
Oui, sauf que moi, qui n'étais pas très bonne en maths, mais il me semble que quand on fait un tableau de ce type, on met des choses dans l'abscisse et dans l'ordonnée. Donc on met des choses, si vous voulez, à la verticale et à l'horizontale. Sauf que là, on n'a que à l'horizontale, 0 à 3 ans, etc. Et on n'a rien en face. Donc on nous construit un graphique avec rien. C'est ça qui est magnifique, et c'est une courbe, voilà, évolutive. Alors on ne sait pas à cause de quoi elle évolue, cette courbe, donc c'est magnifique.
C'est une courbe mal ordonnée, c'est ça?
Tout à fait.
Alors, il y a autre chose qui est assez qui court tout le long de son rapport, un rapport très court, hein, 20 pages à lire, 45 pages d'annexes qui sont sans intérêt aucun. Et alors, c'est vraiment une vision totalement décontextualisée. Il n'y a pas de contexte social. S'il y a progression de la délinquance, du banditisme, de grandes choses comme ça, ça ne correspond pas du tout à des positions, à la position sociale des parents. À l'endroit géographique, à des quartiers de relégation où pourraient vivre les jeunes, ne correspond pas à une situation de l'emploi ou du chômage, absolument pas. On est dans une vision très, très, très mécanique et très déconnectée de tout contexte social. Et puis, dans l'ensemble, on retrouve une vision très, très, très scientiste où on parlait de ce schéma où tout est mécanique, tout est calculable. Et puis, les choses sont affirmées comme ça. On a l'impression de c'est vraiment dans la logique du développement de politiques telles que la tolérance zéro, des choses comme ça, où on commence par dire tout le monde s'accorde à dire. Alors ça, on sait que personne s'accorde à dire ça. Quand la phrase commence par ça, c'est que derrière, on va dire une espèce d'horreur lourdingue, impossible à démontrer.
Il est bien connu que...
Voilà. Et donc on reprend toujours le même schéma, hein, consommer de la drogue, des drogues douces amène à consommer des drogues dures, et consommer des drogues dures amène à la grande délinquance, enfin un systématisme comme ça. J'ai essayé de lire, je sais pas Alexandrine s'il y a des choses sur lesquelles tu voulais réagir.
Oui, il y a quand même pas mal de choses à dire. Bon, il y a notamment, c'est un des points centraux de ce rapport, si on peut appeler ça un rapport, qui est le fait de parler une autre langue que le français quand on est petit, dans le foyer, amène à devenir délinquant.
C'est criminogène, oui.
C'est criminogène. Ouais. Donc, il y a évidemment des recommandations. Donc, entre 1 et 3 ans, hein, et on recommande particulièrement à la mère de parler uniquement le français, de se forcer avec ses enfants. Et il note quand même que, a priori, le père, en général, il est plutôt contre. Parce que lui, les pères exigent souvent le parler patois du pays à la maison. Alors c'est très beau comme on... C'est pas des langues, c'est des patois. On ne sait pas quel pays, mais c'est des patois. C'est pas des vraies langues. Et donc il faudrait aussi faire des choses en direction des pères pour qu'ils puissent aider la mère dans ce dur travail de parler français sans arrêt. Il y a plein de choses comme ça.
Juste sur la langue quand même, parce que c'était d'abord il parlait du patois du pays quand on sait que c'est des gens qui parlent. Il s'agit vraiment d'un regard totalement ethnocentré sur les pratiques de ces gens-là, et c'est quand même très étonnant comme point de vue, parce que normalement on en est plutôt à, enfin je sais pas, nous on nous fait prendre l'allemand, l'anglais, l'espagnol à l'école, à considérer que la pratique de plusieurs langues c'est une chance à la fois dans nos capacités à apprendre, c'est une chance pour la culture, pour le travail plus tard.
Non, mais tu parles des langues nobles là.
Tout à fait, voilà. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il parle de patois, hein. Il se risque pas à parler de langue, hein. Ça serait trop.
Mais il faut pas oublier qu'il y a moins d'un siècle, ça n'atteignait pas ces mêmes degrés, mais il y avait une répression abominable contre les mômes qui parlaient breton dans les écoles en Bretagne. Hein. Donc c'est un peu une suite logique, hein. C'est une sorte de jacobinisme exacerbé, mais qui se termine par la répression violente.
Sur le bilinguisme, si je peux citer justement, parce que c'est magnifique. Je cite tout de A à Z. Le bilinguisme est un avantage pour un enfant, sauf lorsqu'il a des difficultés, car alors ça devient une complication supplémentaire. Il faut alors faire en sorte que l'enfant assimile le français avant de lui inculquer une langue étrangère. On sent bien que c'est super bien écrit en plus.
C'est très con. Moi, je me souviens, il y a longtemps, j'avais fait une enquête sur la formation professionnelle des immigrés en France, et il y avait un patron du bâtiment qui m'avait dit, j'ai beaucoup de Turcs qui viennent d'Allemagne. Et il me disait, les Turcs qui parlent allemand apprennent plus facilement le français que les autres, qui ne parlent que le turc. Ce qui est intéressant. Non, c'est vrai. Ça contredit complètement ça. Hein.
Alors on va peut-être avancer rapidement sur ce rapport, parce que effectivement le temps nous a un peu compté, mais j'avais relevé quand même deux autres points. Alors donc grosso modo ce qui est proposé dans le rapport, c'est de mettre le maire, donc on décentralise à mort, on responsabilise le plus petit échelon des élus, on le met au centre d'un dispositif. Alors ce dispositif mêle travailleurs sociaux, institutions scolaires et police. Les médecins aussi,
les pédopsychiatres, les...
Oui, d'accord. Ça, c'est des. Et donc, ce travail en commun amène à redéfinir ce qu'ils appellent la culture du secret, ce qui est une obligation professionnelle pour une grande partie de ces professions-là, pour en venir à une culture du secret partagé. Mais alors derrière ça, qui est quand même une idée comme ça, c'est écrit de manière très très violente et ce truc ressemble à une caricature, mais on retrouve une grande partie des idées de la droite et d'une partie des socialistes d'ailleurs sur ce qu'est par exemple la prévention spécialisée. La prévention spécialisée qui normalement se prévaut d'une forme de secret professionnel et qui ne les oblige pas et qui leur permet de ne pas donner leurs informations.
Alors on va en faire des auxiliaires de la police, en clair. Voilà.
Ils ont des informations, ils sont pas obligés de les donner à la police. Si on les oblige à faire ça, ça veut dire que c'est la disparition de toute forme de prévention spécialisée, de toute forme d'encadrement alternatif à des formes répressives qui existent aujourd'hui. Donc voilà. Alexandre, est-ce qu'il y avait deux trois autres choses que tu voulais dire ?
Je vais finir de lister les points parce que bon, on le sent bien, c'est le retour des classes dangereuses, hein, c'est tout ce qui est criminogène en soi. Enfin déjà, enfin bon, comme tu le disais, hein, on voit l'encarambar, on est délinquant à vie, grand bandit. Et puis, mais ça prône quand même un assez fort contrôle social aussi, parce qu'ils demandent par exemple aux enseignants de reprendre l'autorité, d'aller voir ce qui se passe dans les familles, etc. Et puis la délation, donc tu viens d'en parler, c'est un peu déguisé, hein, mais c'est un peu ça. Et puis il y a aussi un truc assez étonnant, enfin pas tellement, mais c'est l'école à deux vitesses, à trois vitesses, quatre vitesses, c'est-à-dire que les délinquants, pour les remettre dans le droit chemin, on va leur proposer des formations qualifiantes pour un métier tout de suite. Alors en gros, on propose par exemple de les tout de suite à la sortie du primaire, de les mettre dans des formations en alternance, hein, pourquoi pas. Et puis donc de leur proposer autre chose que le parcours scolaire normal, parce que bon, c'est déjà des déviants, alors ils sauront faire quelque chose de leur 10 doigts, quoi. Donc et puis évidemment de faire un partenariat école, enfin formation professionnalisante et chambre des métiers. Ça c'est pas mal pour la privatisation. Et moi je voulais juste dire pour faire rire un petit peu, c'est que si on applique réellement, je pense que c'est Monsieur Benisti qui a rédigé le rapport, si on applique son système de pensée à son propre rapport, ben franchement, vu comment il écrit le français. À mon avis, c'est un futur délinquant, ce mec-là.
Il va être un...
Je pourrais ajouter un détail. Dans le même temps, au début de cette année, je crois que c'est au mois de février, un parlementaire UMP a repris la croisade de Chevènement en 1984 d'enseigner obligatoirement la Marseillaise à l'école. Je crois que ça marche avec.
Oui, ça va avec.
Mais grosso modo, ce rapport, même s'il va très loin, il est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans la logique gouvernementale. Et je pense que s'il fait autant de bruit, si nous on s'y arrête 5 minutes, c'est que ça ressemble fort à une cartouche tirée. Voilà, on essaye, on dit des choses comme ça, on voit ce qui passe, ce qui passe pas. Et puis de toute façon, le projet de loi qui passera derrière aura une forme tellement atténuée par rapport à celui-là, que ça passera pour un projet modéré, alors que par rapport à la situation qui préexistait, on aura fait un recul énorme. Donc voilà.
C'est toujours moins pire que grave.
Oui, c'est ça. En fait, c'est depuis Raffarin, quoi. Oui. Régulièrement, on a droit à ça avec
à chaque fois. Il y a un retour en arrière.
Il propose quelque chose d'assez musclé.
Mais de la même manière, ensuite, quand on prend les principaux points de la Constitution en question, ça commence bien et on dit le contraire à la fin de l'article.
Exactement.
Agume, l'humanité manifeste un valse doucement tendu. Quelque part à Paris sur la scène à minuit, quartier des bruits troqués perdus. Il y a des idées dedans, balapanam, ça joue la gerbe à la dame, balajou, polo, julou, marlou, gigolette, après chez Dactino, mimi, Vincent. Salut, ma lume à l'heure improvisée, les mains d'éclair, si biche tendue. Délicatement se poser, passer, n'est du véla, du et de vas-y à faire l'eau des villages, jusqu'à tel appétit, des câbles, accordéons, d'altérité. pas de mystère à terre du Grand Nord, au Gabon, de Chine, à Zanzibar, à Algezamar. Il souffle universel, l'étrange et la cadence. Il dit le trait d'union de Madagascar à Saint-Domingue et du Cap-Vert aux Antilles. Allier la tromba, le ségal, founan, al merengue, tissé. Paisanos américains, au Brésil, de Québec, en Louisiane, en Colombie. Il chamame, charanga, foros, il déco blues. Ardès d'amour, de Bayon, à l'Ural, d'Italie, des Tigal, Bulgare, au Manovitz. Il trixi, trixi, tarantelle, et la chenise, c'est la jazz. Allume, allume, exode, accordez-vous, malheur à l'air industriel. La rurale en chemine à vol d'oiseau, turbine, cadence parfaite d'une enfant d'elle. Y'a plus de guide à moine, mal à banane. Ça fait du fric à madame, le macadam, chez le spéculateur, les provoqueurs, les polyfricains, les marchandais. Allume, allume, les universités, depuis tout petit la société. Et pour les brissonnières, rare à faire à la chanson, faire une enfant frère. Les vents pour les rulaires, n'est plus des templiers. Je mets la vache folie, chef pas l'engager, rêve, une liberté. Dans le globo, y'a deux. Treunasa, menui treunano, sao camare di traucade, meri non sto trau, modo treño sao via, sao avanzat, sus camins de fremins alucat, cum las memorias escutat, luz a rius d'aigues burlades, de bus luz deinat, las bus de spoles, de langage amassat tal escriu'n pluralitat madura. Allume, allume, anitat manifeste, passé futur, rume entendu. En banlieue, c'est la nuit du vide après-midi, des mots dans un couplet perdu. Satan, les phrases à la même, pas d'état d'âme, tchara, du rab à l'amour, bagarre à l'âme. Chez les loulous, marrons, les paumés, les ailes, restent effrayés sans bravo. Allume, allume, malheur improvisé, autour de minuit, l'enfant d'âge. Pour que des vastises viennent à l'utoping et penche à l'ouvre à la vie. Et de Bézi à Bipalo, Domer, à Bodo, Citanie, 36-15, Voga, l'océan d'identité.
Alors, donc, on reprend les oreilles loin du front.
J'étais malade, une grosse bronchite tenace, récidive. D'où traitement de choc. Le médecin avait peut-être forcé sur les antibiotiques. Tous les effets secondaires envisagés sur la notice d'emploi s'étaient avérés exactement décrits. Aucun d'entre eux ne m'avait été épargné. Douleurs musculaires, nausées, diarrhée. C'est cette dernière retombée du traitement prescrit qui m'avait envahi. Quelques cachets, véritables catapultes, m'avaient transformé en tube digestif à transit rapide. Je revenais de Paris avec ma compagne quand l'offrive s'annonça. Tout d'abord les maux de ventre violents, espacés, puis de plus en plus fréquents. Je devais grimacer de façon significative au point que mes voisins commencèrent à me regarder avec curiosité avant de changer de banquette. Difficile de comprendre immédiatement ce qui m'arrivait. Mes tripes tordues par la souffrance, m'indiquait rapidement la réalité de la situation. Voilà, alors c'est le livre de Maurice Rachfus, Le chagrin et la colère, qui commence comme ça, et c'est donc l'histoire d'un ennui intestinal qui se transforme en un récit.
C'est plus compliqué que ça quand même, hein. Parce que tu n'as pas pu ne pas voir, comme on dit, que le bouquin s'ouvre sur un récit de David Rousset sur... un appel dans un camp de concentration et un garçon qui est en proie à la dysenterie, qui est assassiné par un capot. Et quand j'ai eu cette difficulté, si on peut dire, j'ai été renvoyé immédiatement à cette situation des concentrationnaires qui, debout depuis 3 ou 4 heures du matin, pendant l'appel, qui durait des heures, en pensant que ceux qui étaient bronchiteux ou qui étaient diarrhéiques, eh bien, c'était des hommes morts. Et j'ai d'une certaine manière, c'est pas aussi simple que ça, revécu ce que j'aurais pu vivre en d'autres lieux à un autre moment. Parce qu'en 1942, j'avais le pied sur le marchepied du train de déportation. Donc je me suis remis dans cette situation avec quelque chose de terrible en temps réel. Hein. Mais finalement, j'ai essayé quand même de faire rire un peu le lecteur, parce que je dis quelque part, et c'est sa quatrième de couverture, imaginez Bonaparte au pont d'Arcole en proie à la colique, où le pape bénissant la foule urbi et orbi depuis le balcon de Saint-Pierre et souillant sa soutane. Je ne savais pas que ça allait sortir
à ce moment-là. Il l'a fait, ça.
Hein. Voilà. Voilà. Et alors, mais comment dire, ça, c'est le chagrin. Hein. mais il y a dans ce bouquin également la douleur, c'est-à-dire les renvois à l'enfance avec les petites vacheries que vous faites la vie, les opérations, et puis la colère. C'est pour ça que il y a un lien. La colère, c'est pas une obsession, mais la colère, c'est Sharon. Et en même temps, j'ai revécu Sharon le 7 février 62, avec ce qui se passe dans les rues, avec les flics qui sont là et des matraques d'un mètre de long qui sont prêtes à vous cogner. Y a un lien entre les deux, hein, parce que c'est une époque où on a encore très peur. Mai 68, c'est 6 ans plus tard, où les étudiants, pour la première fois dans l'histoire des luttes sociales de ce pays, ne foutront pas le camp comme des lapins devant les policiers. Et à Sharon, on court beaucoup. On court beaucoup parce qu'on a très peur. Il n'y a pas encore le sens de la riposte, et en tout cas de l'organisation, de la défense. Et toutes les grandes manifestations encadrées à l'époque, surtout celle-là, par le PC, on n'est pas préparé à ça.
En fait, c'est un peu trois récits dans ce livre qui s'articulent, appelé l'affolement, la peur et la douleur, et puis la rancœur plus que la haine. Et alors, c'est donc l'affolement qui est le premier récit dont on vient de lire un extrait, et où là aucun détail ne nous est épargné. On sait absolument tout du fonctionnement de ton tube digestif, et alors on suit ton...
Je l'amène à bon port quand même.
On suit ton récit avec un certain suspense, voilà, savoir mais Maurice, alors on va pas le dire pas non la fin tout de suite, mais est-ce que tu vas réussir à tenir le coup jusqu'au bout. C'était, il y a un côté presque polar dans cette manière de raconter, de rendre du suspense.
Ouais, c'est un peu le côté sinistre, mais il y a le côté farce. Je disais cette partie du livre, ça se termine par le pape qui chie dans sa soutane, quand même. Hein.
Et voilà, c'est... voilà, mais non, tu l'as dit, c'est vrai que c'est cette manière d'articuler des souvenirs ou des histoires, ou cette histoire, les pages les plus noires de notre histoire, sur ta propre douleur, c'est un peu ce qui guide ce livre.
Oui, et puis au passage, j'essaie de trouver des choses drôles. Je raconte, par exemple, ce qui se passe dans les cabinets d'un certain nombre de personnes où j'ai pu passer, où un très bon ami avait chez lui dans ses chiottes une collection de peignes, on se demande pourquoi. D'autres ont des polars, je sais pas, voilà. Ou ma petite fille qui m'entend pas, qui est très jeune, qui un jour dit à sa mère, on pourrait pas retourner dans ce restaurant où les cabinets sentaient si mauvais parce que c'était très bon. Il y a tout ce qui tourne autour des lieux, hein, dans ce bouquin.
Et alors, bon, puis après, il y a deux autres récits. C'est des récits que tu as écrits séparément les uns des autres.
Oui.
C'est trois, sans de trois.
Mais je les ai repris après ensemble parce que j'ai vu qu'il y avait un lien quand même là.
Parce que il y en a un, j'aurais pu le lire à l'aveugle et savoir que c'était toi qui l'avais écrit dans le troisième récit, la rancœur plus que la haine. Tu dis comment vivre tranquillement dans un pays où il y a plus de policiers que d'assistantes sociales.
C'est une pensée profonde. Hein. Je sais pas.
Non, mais je crois que ça guide. C'est une sorte de résumé. On aurait pu appeler ce texte-là, à mon avis, on aurait pu l'appeler l'intranquille ou l'intranquillité.
Oui, mais c'est difficile à vendre.
Tu expliques que. quelque part que à travers tes souvenirs et à travers aujourd'hui, qu'il y a une sorte de difficulté à vivre dans cette société. Est-ce que tu te sens dedans d'ailleurs, même, on se demande.
Ben c'est, comment dire, pour revenir au propos initial, c'est une société de merde. Hein. Et j'ai, comment dire, quelqu'un m'a demandé pourquoi j'avais écrit ça. J'ai dit, c'est pour faire chier. Et c'est vrai, j'ai écrit à un très bon ami en lui envoyant un service de presse, en lui dédicaçant, en lui disant que certains auteurs se déshabillent, moi j'ai choisi de me vider.
Alors, mais j'étais surpris parce que quand j'ai reçu le livre, tu parles de dédicace pour Pierre, le meilleur animateur radio que j'ai jamais rencontré, tout ça, et ces pages qui sont peut-être moins merdiques qu'elles n'y paraissent. Et je savais pas de quoi parlait le livre, j'étais très... très surpris. Voilà. Mais je sais pas.
Non, parce que c'est des choses dont on ne parle jamais. Quand je dis, il y en a qui se déshabillent, je pense à Frédéric Mitterrand, on n'a rien à foutre qu'il nous raconte ses aventures sur toutes les chaînes de télé. Vous l'avez peut-être vu, non? Il raconte sa vie privée, ça n'a rien à foutre. Alors que ce que je raconte moi, là, ça arrive à n'importe qui, y compris à la reine d'Angleterre. Tout le monde y va à pied, hein.
Alors, je...
Et c'est pas décroché de l'histoire.
Non, mais c'est ça. C'est un récit qui mêle des choses très loin les unes des autres, quoi. Ton histoire là sur le moment, des souvenirs d'enfance, de ce qu'il a pu se passer pendant le il y a tous les extraits, c'est illustré de plein d'extraits différents de livres et de récits autour des camps de concentration et où justement
c'est diarrhée dans les camps, bah oui,
où justement des conséquences que ça a pu avoir, c'est un exercice un peu étonnant de littérature.
Oui, c'est pas un exercice. On m'a dit que c'était de la littérature.
Ah oui,
ça me fait plaisir.
C'est vrai.
Non, des fois, on a envie de, comment dire, non pas de changer de genre, mais de montrer que on n'est pas constamment quelqu'un qui pense avec la tête entre les mains. Hein. On se prend la tête entre les mains pour d'autres raisons, bien souvent.
Alors, vu que ton livre parle beaucoup de caca, je voulais signaler un autre champion du caca. Vous êtes donc désormais deux dans cette catégorie. Charb, qui publie son Maurice et Patapon, le tome 3. Donc, il n'y a pas que du caca. Il y a aussi du pipi, de la sodomie, des morpions, tout ça. Et je pense que j'ai reçu les deux. J'ai lu les deux en même temps. Il y avait quelque chose de... donc on va rappeler, donc c'est le Chagrin et la Colère, publié au Cherche Midi éditeur. Ça coûte 15 €, et alors ça ne sort que
le vendredi 28 en librairie.
Voilà, ça sort le vendredi 28 en librairie. Voilà.
C'est une avant-première.
Est-ce que on sait que tu as toujours 12 bouquins en préparation en même temps. Est-ce que là les il y a d'autres choses.
Oui, bien sûr.
Oui.
Non. Je ne donnerai pas les titres, mais il y a des choses en préparation.
Ben donc on se verra à cette occasion-là. On peut peut-être rappeler les coordonnées, parce que entre deux livres, tu fais la police.
Tous les mois, oui.
Et donc pour recevoir, c'est généralement ces 4 pages ou 6 pages en fonction de l'actualité du ministère de l'Intérieur et de la police. Et donc pour le recevoir, faut s'abonner.
Non, on s'abonne pas, on adhère.
On adhère à
l'OLP.
C'est voilà. Pas un journal.
On adhère à l'OLP.
C'est
donc,
un bulletin intérieur.
On adhère à l'OLP, donc l'Observatoire des Libertés Publiques. Et donc pour adhérer à l'OLP, il faut écrire à l'Observatoire des Libertés Publiques. 7-9 passage d'Aigorneau dans le 20e arrondissement de Paris, et il sera demandé un chèque de 10 € minimum. Donc voilà, vous adressez vos noms, prénoms et adresses au 7-9 passage d'Aigorneau, et vous recevrez tous les mois ce fascicule.
Tu as vu
Ah oui, et puis alors, il y a désormais ce comble de la modernité. On peut télécharger maintenant en format PDF le que fait la police.
Ouais, c'est sur un serveur FTP, donc c'est ftp.samizdat.net/media/presse/que-fait-la-police-QFLP.
Voilà, alors il y a moyen de le retrouver de toute façon en allant sur le site de samizdat.net, hein, samizdat.net, et là il y a moyen d'arriver très rapidement sur le serveur qui permet de télécharger ce petit journal. Écoute, Maurice, beaucoup d'être venu.
C'est moi, hein.